Tribu, Laurent Caspary.
Bonjour, bienvenue dans Tribu. Pas facile certains jours de faire preuve d'optimisme à visage découvert. L'optimiste, surtout ces dernières semaines, est vite suspecté de n'avoir pas tout à fait compris le monde dans lequel nous évoluons tous. Un monde forcément stressant, globalisé, dangereux, inquiétant. Un monde où la nourriture, l'air, l'eau sont devenus des facteurs de cancer multiples. Un monde de chômage, de crise économique, de pollution. Bref, un monde déprimant qui fait donc passer notre optimiste de service pour un doux rêveur, pour ne pas dire un pauvre naïf. Et pourtant, si c'était lui qui avait raison. Et si notre monde n'était pas si noir, si déprimant, et si on grattait un peu, si on prenait le temps de réfléchir un moment à la situation de la société, de ses avancées sociales et technologiques, et si on voulait bien voir le verre à moitié plein plutôt que toujours à moitié vide. Ce serait peut-être plus agréable et plus constructif pour nous, individuellement, mais également pour l'ensemble de la société. On est quelques-uns à penser que oui, c'est mon cas, je l'avoue, et c'est votre cas aussi, j'imagine, Philippe Gabillet. Bonjour.
Ah bonjour, bonjour à vous, merci de me recevoir.
Merci à vous d'être dans nos studios de Paris en direct, Philippe Gabillet. Vous êtes professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, les SCP Europe. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages comme Éloge de l'optimisme, quand les enthousiastes font bouger le monde, on va pas mal en parler, mais aussi Éloge de la chance et tout récemment Éloge de l'audace et du romanesque. Tous ces ouvrages sont parus aux éditions Saint-Simon. Et puis vous êtes le porte-parole, je disais ça avec Stéphane Gabiou tout à l'heure dans CQFD, le porte-parole de la Ligue des optimistes de France. Ça sonne un peu étrange, Philippe Gabillet, ça fait un peu Ligue des gentlemen extraordinaires. Qu'est-ce que c'est que cette
Ah oui, mais c'était d'ailleurs un petit peu ce qu'on s'était dit au départ, parce que l'initiative en fait vient de Belgique. Il faut savoir que ça a été créé au départ en Belgique. La première Ligue en Europe, ça a été la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Et ensuite, des ligues se sont créées dans à peu près tous les pays. Et moi, un jour, on m'avait appelé en me disant, écoutez, voilà, on a un mal fou parce qu'en France, ça n'accroche pas, les médias, ça ne les intéresse pas. Tout le monde dit, les Français sont pessimistes. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Et en fait, on a fait un tour de table, on a rameuté, c'est le cas de le dire, un certain nombre de people, voire de personnalités plutôt optimistes. Jean d'Ormesson, de suite, avait dit que ça l'intéressait. Éric Orsenna, Éric-Emmanuel Schmitt, même Mathieu Ricard, depuis l'Inde, vous voyez, avait réagi. Ouais. Et on a créé comme ça une ligue. On a aujourd'hui en France, on a un newsletter qui s'appelle La Lettre Optimiste, qui en fait a 8500 abonnés aujourd'hui. Donc, mon Dieu, pour un des pays les plus pessimistes du monde, paraît-il, on se défend.
C'est pas mal. Et donc cette newsletter, c'est une newsletter forcément de nouvelles optimistes.
Alors, oui, sachant qu'il faut juste être clair là-dessus, une nouvelle optimiste n'est pas une bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il existe parfois des nouvelles dramatiques, des nouvelles absolument terrifiantes, et Dieu sait que nous, on a eu notre lot ces dernières semaines. L'optimiste, c'est simplement celui qui dit « ça vaut toujours le coup de refuser de consentir au mal ». Voilà. C'est-à-dire que, en gros, la fatalité, l'horreur, l'injustice, tout ça ne sont pas opposables à l'optimisme. Être optimiste, c'est tenter de faire avec et de garder coûte que coûte une énergie de vie, une énergie d'action, voire même surtout dans les situations les plus compliquées. Quoi. Voilà, c'est ça.
Donc pas un doux rêveur. Hein. Quand je dis qu'est-ce que c'est qu'un optimiste, c'est pas forcément un doux rêveur, un naïf.
Vous savez, on est en tout cas en Europe. En Europe, l'image qu'on a de l'optimisme, elle a été très 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 marquée par la philosophie des Lumières. Et c'est vrai que dans le fond, celui qui a créé la première figure romanesque de l'optimisme, c'était Voltaire avec Candide ou l'optimisme. Et c'est vrai que Candide, quand vous relisez aujourd'hui, Candide, ça, lui pour le coup, c'est un doux rêveur. Il traverse une Europe à feu et à sang, et on n'arrête pas de lui dire, mais non, vous allez voir, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Éric-Emmanuel Schmitt, qui est un des membres d'origine de la Ligue des optimistes de France, c'est dommage, c'est vraiment dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. On confond en fait être optimiste et positiver. Non, l'optimiste, simplement, il vous dit, voilà, maintenant que quand la difficulté est là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment est-ce qu'on peut transformer tout ça en énergie? Par exemple, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, en regardant ce qui peut être fait, est-ce qu'il y a des solutions auxquelles on n'a pas pensé? Est-ce que le verre est quand même à moitié plein de quelque chose? Etc.
Voilà. Philippe Gabillet, vous dites que les optimistes sont des radiateurs, qu'on aime les approcher parce qu'ils fournissent une forme de chaleur.
Oui, moi je pense que on peut d'ailleurs de temps en temps aussi critiquer, brocarder, se moquer un peu, mais fondamentalement, quand vous voyez dans un dîner, dans une conférence, dans un colloque, celui ou celle qui va avoir le point de vue optimiste, et celui ou celle qui a le point de vue optimiste, ça va se voir aux mots qu'il emploie ou qu'elle emploie. Il ou elle va dire, voilà où on est bon, voilà pourquoi on peut s'en sortir, voilà peut-être des voies auxquelles nous n'avons pas pensé. Ça a véritablement une caractéristique, c'est que ça vient réchauffer, alors ça réchauffe tout d'ailleurs, hein, ça réchauffe l'intelligence, ça réchauffe l'affect. Oui, c'est vrai, de ce point de vue-là, je crois beaucoup à cette métaphore du radiateur. Vous souvenez peut-être que j'avais dit aussi que les pessimistes, en revanche, étaient plutôt des drains, c'est-à-dire des gens qui allaient drainer du... Alors, c'est peut-être intéressant aussi, parfois, hein, quand on a une infection, de drainer. Mais on peut pas vivre en mode drain, quoi. Il vaut mieux quand même vivre en mode radiateur.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Philippe Gavillet, les attentats de Paris. C'est vrai que ces attentats ont secoué tout le monde et ils viennent quelque part renforcer le sentiment que pas mal de gens ont, qu'on vit dans une époque terrifiante, plutôt inquiétante. C'était le cas, certains le pensaient, beaucoup le pensaient déjà avant, et puis là, ça vient se renforcer. C'est encore plus dur d'être optimiste et de porter ce message.
Non, parce que dans le fond, les faits sont têtus. Quelle a été, il y a eu, face à ces attentats, il y a eu une réaction très naturelle d'ailleurs, vous voyez, du corps social, de la France et de Paris en particulier. Les gens ont été tétanisés, mais ils ont été tétanisés pendant combien? 4 jours? 5 jours? Et puis très rapidement, la première réaction des Parisiens, c'était de dire, mais il est hors de question qu'on se laisse faire, quoi. Donc, on ne peut pas, nous, on n'est plus dans la guerre d'autrefois. Donc nous, notre résistance, ça veut dire, on va continuer à sortir, on va continuer à s'habiller comme on veut, on va continuer à aller aux terrasses des cafés, parce que de toute façon, la vie est condamnée à retrouver son chemin, quoi qu'il arrive. On est dans un monde où, depuis déjà plusieurs décennies, même plusieurs siècles, quand on regarde comment les sociétés évoluent, on va pas me dire quand même qu'il valait beaucoup mieux pour tout le monde vivre au milieu du 19e siècle. Non, parce que dans le fond, la liberté progresse partout, la santé progresse, quelque part la paix progresse. Mais la différence qu'il y a entre il y a très longtemps et maintenant, c'est qu'aujourd'hui, quand quelque chose explose, au propre, au figuré, c'est logique. Les chaînes d'infos sont là, CNN, Al Jazeera, Gélo, et ainsi, la RTS, et tout le monde est là. Vous voyez, tout le monde est là. Et donc, ça va donner ce sentiment que le monde dans lequel on vit va mal. Mais quand on regarde clairement, il n'y a pas beaucoup de gens qui, en connaissance de cause, vont vous dire, mais qu'est-ce que j'aurais aimé vivre, en fait, au XVIIIe siècle, j'aurais été beaucoup plus heureux. Ou alors, ceux qui disent ça, pour le coup, sont vraiment des très, très grands privilégiés.
Oui, d'où l'importance, hein, l'information, on l'a souvent dit, d'ailleurs, en analysant la société dans cette émission, l'information est anxiogène, elle a un côté anxiogène. Les journalistes font leur travail, il y a un événement, on en parle, mais les gens ne retiennent que ça.
Mais elle est faite pour ça. Vous savez, moi, la seule presse que je connaisse qui n'est pas anxiogène, c'est la Corée du Nord. Alors, ça peut pas être un modèle. Vous voyez ce que je veux dire? Le prix à payer pour la démocratie, et pour bien faire comprendre aux gens que la liberté, c'est d'abord une tension, c'est un combat aussi. Et ça veut dire que l'information est là pour nous mettre en avant, effectivement, nous alerter sur ce qui ne va pas. Et puis, heureusement, il arrive aussi que la presse, et très souvent d'ailleurs, nous montre que pour critiquer la société, il faut se souvenir, vous voyez, de cette image. C'était une expression de François Truffaut, le grand réalisateur, qui disait « Le travail d'un critique, ça devrait d'abord être un pédagogue de l'admiration. » Et je pense qu'il y a effectivement dans le monde de la presse des gens qui sont là pour montrer en quoi notre monde se déconstruit, puis d'autres qui sont là pour dire « Attention, regardez les choses formidables qui se passent, les initiatives, les solutions. »
Mais alors, ça veut dire peut-être, Philippe Gabillet, que il y a la responsabilité de la presse, elle pourrait aussi effectivement appuyer parfois sur ce qui est constructif, mais sociétalement, on n'est pas formé pour aller chercher les bonnes nouvelles, pour aller le gratter un tout petit peu, on s'arrête trop vite peut-être à ce qui est angoissant.
Je vais vous dire, c'est un petit peu logique parce que dans le fond, la modernité, elle est très récente dans l'histoire de l'humanité. Nous tous, tous nos auditeurs aujourd'hui sont, sans exception, des descendants de pessimistes. Parce que jusqu'à ces dernières décennies, si vous étiez pour le coup optimiste, vous étiez fichu, quoi. Donc, et je vais même beaucoup plus loin, moi je pense que l'information anxiogène, et on est plusieurs d'ailleurs à le penser, entre autres dans les analyses de médias, l'information anxiogène, dans le fond, elle est aussi désirée. Parce que dans le fond, quand je vois les malheurs du monde, mon inconscient se sent rassuré par le non-malheur dans lequel je suis moi. Et c'est pour ça que les gens ne se rendent pas compte, mais pourquoi est-ce qu'on dit, on reproche toujours aux journalistes de donner des mauvaises nouvelles? Moi, je dis toujours, mais attendez, mais s'ils donnent ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, c'est parce qu'il y a une demande, parce que nous les consommons. Voilà, ça présente pour nous aussi un certain nombre de bénéfices. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas apprécier de temps en temps une bonne nouvelle. Et ça veut dire aussi que dans la presse, souvent on dit les gens aiment les mauvaises nouvelles. Non, les gens aiment les nouvelles dramatiques. On adore quand les gens sont sauvés. On adore quand, en fait, des gens vont trouver des solutions. On aime aussi les histoires qui se finissent bien.
Vous dites, Philippe Gavillet, qu'il y a un conformisme d'être sceptique. Il faut être sceptique, c'est quelque chose de naturel, c'est un réflexe.
Là, pour le coup, c'est le français qui vous répond. En tout cas, dans la culture française, francophone, je ne sais pas, faudrait voir avec nos amis suisses, belges, canadiens, luxembourgeois, etc. Mais
vous voyez des différences entre les différents pays francophones?
Ah oui, attendez, c'est évident. Moi, je travaille énormément, j'ai beaucoup travaillé en Belgique, en Suisse et au Canada. Ça n'a rien à voir. Je trouve que, par exemple, là, il existe une bonne humeur belge. Il existe un pragmatisme positif suisse, entre autres en Suisse romande, qui est ce que je connais le mieux, qui me semble évident. Et de toute façon, les Québécois, ils n'aiment pas qu'on leur dise, mais les Québécois sont quand même des gens qui sont des latins, qui sont tombés dans la marmite quand même américaine, et qui sont dans cette logique, on va trouver des solutions, on tente le coup. Non, c'est vraiment les Français d'origine qui gardent cette espèce de culte pour le scepticisme, qui fait que, vous voyez, le Français, comme on dit, c'est celui à qui on ne l'a fait pas. C'est-à-dire, il y a cette espèce de distance toujours par rapport aux événements, et qui fait que, par exemple, on se méfie de ses propres enthousiasmes, on se méfie de ses emballements, comme si on avait peur, quelque part, de se faire avoir. Ouais, bon. Donc c'est vrai, l'esprit critique aujourd'hui, il est omniprésent dans la culture, dans l'éducation. On apprend aux enfants très très jeunes à décoder, décrypter, ne pas se laisser avoir par les apparences. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, ben, ça peut donner des gens qui, tout en étant assez, on va dire, voilà, bel esprit critique, un peu sceptique, mais la question c'est, quand on est trop sceptique, est-ce que ça ne risque pas de nous laisser passer des belles opportunités dans la vie ou dans la relation avec les autres?
Et on va voir d'ailleurs tout à l'heure que ça peut changer au niveau d'une société. Ce qui est intéressant, vous l'avez dit quelque part, je ne sais plus où je l'ai lu, mais vous avez dit que dans les pays optimistes, on parlait précisément de la France, de la Belgique, ça c'est l'espace francophone, mais les pays qui sont dans certains classements, parce qu'apparemment il y a des classements d'optimisme qui se font, c'est plutôt les pays du Sud, les pays qui sont pauvres, et ils ont un optimisme qui est plus grand que dans les pays du Nord, c'est frappant.
Oui, vous avez une société comme Gallup International, donc un organisme d'études, qui a régulièrement fait des enquêtes là-dessus. Il apparaissait que les grands pays optimistes aujourd'hui, en tout cas au niveau de la population, c'était le Nigeria, le Ghana, l'Ouzbékistan, le Vietnam, c'est-à-dire des pays dans lesquels les gens vous disent « ce qu'on vit en ce moment est difficile, mais comment ça nous paraît évident que demain ça ira mieux ?» Et surtout, ce qui est le marqueur, vous voyez, pour les optimistes, c'est l'anticipation du mieux pour ses propres enfants. Dire, on voit très bien les pays aujourd'hui où la majorité de la population va dire, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, pour nos enfants, ça ira mieux demain, on en est à peu près sûr. Et ceux qui ont des doutes là-dessus, entre autres nous, parce que dans le fond, on a un peu mangé notre pain blanc, nos croissances n'ont plus vocation à être des croissances à deux chiffres, voire même à des chiffres élevés. Donc, on se dit, voilà, alors est-ce que mes enfants, nos enfants auront la même qualité de vie que nous avons aujourd'hui? Il y a une interrogation, indépendamment des prévisions des économistes, vous voyez, il y a une vraie interrogation du citoyen sur ça. Et ça n'existera pas en Afrique, ça n'existera pas en Asie, ni en Amérique centrale.
On a l'impression que les jours meilleurs, effectivement, en Afrique vont arriver parce que la situation actuelle est difficile. Et précisément, l'arrivée, à titre individuel cette fois-ci peut-être, Philippe Gabier, l'arrivée d'enfants, est-ce que ça peut changer quelque chose, quelqu'un de plutôt pessimiste, il a des enfants, et s'il est pessimiste tout le temps avec ses enfants, ça va pas, il doit transmettre quelque chose.
Ah oui, ça, il y aura un problème, c'est que tant qu'on est seul, et je vais vous dire, c'est vrai, vous prenez, c'est le cas pour les enfants, mais c'est vrai aussi dans le monde vous savez, de l'entreprise ou de la collectivité. Quand on a de comptes à rendre à personne, si ce n'est à soi-même ou à la postérité, quand on est un expert, on peut se permettre d'être pessimiste. En plus, c'est une posture généralement assez intelligente et qui va être assez argumentée. Mais dès l'instant où on a non pas charge d'âme, mais on a charge d'état d'âme, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un qui a autour de lui ou autour d'elle des personnes qui attendent de voir comment on va réagir pour eux-mêmes se déterminer. On est parent, on est éducateur sportif, on est enseignant, on est chef d'entreprise, on est homme politique. L'optimisme est quasiment un devoir moral. Mais l'optimisme, ça ne veut pas dire tout va bien. L'optimisme, c'est Churchill disant aux Anglais au début de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, mais sous-entendu derrière, et on s'en sortira. C'est De Gaulle disant on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Mmh. Voilà, ça c'est un discours d'optimisme. C'est-à-dire c'est un discours qui dit on peut s'en sortir, ça va être compliqué, ça va être dur, mais in fine, on gagnera, on s'en sortira, c'est ou la vie, ou la liberté, ou la démocratie qui, au bout du compte, gagnera.
Philippe Gabillet, vous êtes avec nous jusqu'à 11h30 ce matin dans Tribu. Alors on va enfoncer encore un tout petit peu le clou de l'optimisme, c'est le cas de le dire, avec La vie de Brian, c'est un extrait tiré du film des Monty Python à ce moment-là. Alors on s'en souvient, Brian est crucifié, il chante quand même. « Always look on the bright side of life ».
Tribu sur la première.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
Piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
It's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there.
Always look on the bright side of life. Il faut toujours regarder le côté lumineux de la vie. Dans Star Wars, on dit qu'il faut pas aller du côté sombre de la force. Voilà, on vous le dit, il faut être optimiste. On parle de l'optimisme ce matin avec vous, Philippe Gabillet. Vous êtes professeur à l'ESCP Europe, auteur de plusieurs ouvrages comme Éloge de l'optimisme, paru aux éditions Saint-Simon. Et puis vous êtes le porte-parole de la Ligue des optimistes de France. Philippe Gabillet, vous venez de sortir aussi un autre ouvrage, Éloge de l'audace et du romanesque, toujours aux éditions Saint-Simon. Il y a un lien entre, on imagine, il y a un lien entre l'audace et l'optimisme. Si on veut être audacieux, il faut être un minimum optimiste.
Ah bah c'est préférable. Mmh. C'est préférable. Mais en fait, il faut surtout être audacieux et donc optimiste quand on comprend que nous vivons dans un monde qui est aussi un monde parfois un peu conforme, où on voudrait que chacun vive sa propre vie en respectant aussi le principe de précaution. Donc, si on fait, si on regarde trop ce qu'on nous raconte à la télé, dans les médias, etc., faut plus rien faire. Faut pas manger trop, faut pas fumer trop. Il faut pas, faut faire attention à ses relations avec les autres. Et il faut pas prendre trop de risques. Et c'est vrai qu'on peut avoir un autre point de vue, de dire, si on mettait un peu d'intensité aussi dans nos vies, on a le droit, dans le monde dans lequel on vit, de mettre un peu d'intensité. Et l'audace, c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort pour aller vers des expériences de vie qui vont être différentes, qu'on puisse se donner le droit de vivre des choses tant soit peu exceptionnelles dans le temps qui nous est imparti. Voilà.
Ceux qui nous écoutent, Philippe Gabillet, peuvent peut-être se dire, c'est facile à dire tout ça, être optimiste, ok, très bien, ça c'est de la théorie. Malgré tout, on est tous le produit de notre société, de notre passé, on a peut-être vécu des choses difficiles. On est aussi, peut-être on a en nous quelque chose de biochimique qui fait qu'on a plus de pessimisme que d'optimisme. Est-ce qu'on sait si on a cet équilibre entre les deux et que cet équilibre est parfois difficile à trouver?
Alors, ce que l'on sait, c'est que, d'un point de vue cérébral, on va employer un vocabulaire informatique, on pourrait dire que le logiciel optimiste et le logiciel pessimiste, ils sont installés d'office à la naissance. C'est-à-dire que vous et moi, quand nous sommes nés, nous avions les deux. La preuve, c'est que nous sommes tous des optimistes, puisque nous avons passé notre temps, quand on avait autour de un an et demi, deux ans, à nous casser la figure, et on est retombé mille fois, et on s'est relevé chaque fois, et on n'a jamais cessé de se relever tant qu'on n'a pas su marcher. C'est formidable quand on y réfléchit bien. Ça veut bien dire qu'il y avait une logique en nous très forte. Et à côté de ça, on a un logiciel pessimiste qui nous a rapidement appris que le feu, c'est chaud. Quand on traverse la rue, sauf peut-être en Suisse, il faut quand même regarder, même sur un passage clouté, s'il n'y a pas une voiture qui arrive, etc. Vous voyez. Et à côté de ça, on a bien évidemment l'éducation qui va rentrer en ligne de compte. Donc, en revanche, ce qu'il faut vraiment distinguer, vous voyez, c'est l'optimisme en tant que trait de caractère. C'est-à-dire, une espèce de façon d'être. On n'est pas tous aussi optimistes, a priori, les uns que les autres. Et puis, il y a l'optimisme en tant que conduite, c'est-à-dire une espèce d'attitude délibérée dans la vie que l'on va avoir parce qu'on considère que c'est une attitude que l'on doit avoir, même si on est, et Dieu sait que ça arrive, soi-même on a des doutes, on n'est pas dans une forme olympique, etc. Mais il se trouve qu'on a autour de nous des gens, nos enfants, les jeunes dont on s'occupe, nos collaborateurs, etc., qui attendent d'avoir un message qui leur donne envie d'agir. Mais à ce moment-là, l'optimisme, ça va consister non pas à se sentir optimiste, on ne peut pas se forcer à éprouver des émotions, ou des sentiments qu'on n'a pas, ça n'existe pas. En revanche, on peut dire, j'ai aussi le devoir aujourd'hui d'avoir une attitude, d'être une espèce de machine à énergie relationnelle, être quelqu'un qui va, à travers ce qu'il dit, la façon dont il va communiquer avec les autres, va leur donner envie, laisser espérer, faire espérer. C'est aussi une attitude délibérée. Alors bien sûr, si en même temps on le ressent intérieurement, c'est pas mal. Mais parfois, il faut admettre, on n'est pas en bonne forme, on est même un petit peu morose. Mais on n'a pas le choix, il faut y aller.
Comme une forme de pari, on fait le pari de l'optimisme.
De toute façon, on est sur un pari, mais être optimiste, être pessimiste face à ses propres enfants, par exemple, c'est à la limite, de la faute morale. Et celui qui me dit, ils vont vivre dans un monde très dur, je préfère leur dire la réalité telle qu'elle sera. Non, je dirais, ça se discute. L'idée selon laquelle on devrait toujours vivre dans le réalisme le plus profond, c'est-à-dire faire que en sorte d'éviter toute forme, d'illusion, d'espoir excessif, etc. Mais dans ce cas, quelle vie va-t-on avoir? On peut pas vivre comme ça en mode permanent, en mode neutre, en mode réaliste. Je trouve ça d'une tristesse infinie.
Vous avez l'impression que c'est difficile à faire passer comme message, Philippe Gabillet. Alors vous faites des conférences, les gens, vous avez l'habitude de parler de ça, mais peut-être dans un cercle plus restreint, est-ce que lorsque dans des repas de famille, que sais-je, ou lorsque vous rencontrez certains collègues, ce message est parfois difficile à faire passer. Les gens ont toujours cette tendance optimiste. Vous êtes optimiste sur le fait que ce message va finir par passer, que les gens vont comprendre que tout n'est pas forcément tout noir?
Ah, vous savez, moi je suis tout à fait de l'avis de Victor Hugo. Victor Hugo a dit un jour une chose, il a dit « Rien ne pourra jamais arrêter une idée dont l'heure est venue ». Et je pense que l'optimisme de son heure est venue. Est-ce que c'était le cas il y a 5-6 ans quand on l'a lancé? je ne pourrais pas vous l'affirmer. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Aujourd'hui, mais je le vois, ne serait-ce que le nombre de fois où le thème est traité dans la presse grand public, dans la presse économique, les débats, le nombre d'ouvrages qui sont sortis sur le sujet, voire même ce qui, pour moi, qui suis un universitaire, est un élément clé, le nombre d'articles scientifiques publié sur l'attitude optimiste et ses conséquences dans tout un tas de domaines, en médecine, en psychologie du sport. Voyez, donc on se rend compte que la thématique, elle est extrêmement forte. Alors, c'est peut-être lié aussi à toute cette espèce de montée du thème, vous voyez, de la recherche du bonheur dans les médias. Mais vraiment, l'optimisme en tant que tel, il a bien meilleure presse aujourd'hui. Mais peut-être aussi parce que la pédagogie, le travail de pédagogie a fonctionné. C'est-à-dire que de plus en plus de gens vous disent, oui, effectivement, je comprends bien, il faut pas confondre, en fait, être d'un caractère optimiste, ce qui est un problème de personnalité, et puis mettre en œuvre une attitude et des comportements optimistes dans sa vie, juste pour que les choses changent. Moi, il y a une image qu'on m'a donnée le jour que j'ai trouvée très très belle. Alors, vous savez qu'on a eu la COP21,
oui.
Et quelqu'un m'avait dit, vous savez, dans le fond, ce qui est formidable avec l'optimisme, c'est une énergie totalement renouvelable et qui grandit au fur et à mesure qu'on la partage. C'était une jolie image, ça.
Le message est en train progressivement de passer, voilà. Philippe Gavillet. On rappelle c'est les titres de ces ouvrages, Éloge de l'optimisme, quand les enthousiastes font bouger le monde. Votre tout dernier ouvrage, Éloge de l'audace et du romanesque. Tous ces ouvrages sont parus aux éditions Saint-Simon. Merci tout d'avoir fait passer le message.
Et merci à vous.
Une fois de plus, merci.
Merci infiniment.
Philippe Gavillet, on vous souhaite une excellente journée. Merci à Valère Veilleur aussi, à la technique, à Céline Zuffray, notre assistante de production, et à Karine Vuillamou qui a choisi la musique. Vous pouvez nous réécouter www.rts.ch/tribu. Allez sur notre page Facebook ou notre compte Twitter @rts_tribu. Dans un instant, les décodeurs. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.
Tribu, Laurent Caspary.